Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. On n'arrête plus la flambée du prix du gaz. Cette fois, une hausse de plus de 12% sur les tarifs réglementés. Le régulateur de l'énergie invoque une hausse historique sur le marché mondial. Les pourboires par carte bancaire bientôt défiscalisés au restaurant et à l'hôtel. Emmanuel Macron veut ainsi relancer l'attractivité d'un secteur qui manque cruellement de bras à l'heure de la relance économique. Jean Castex a justement présenté son plan contre les pénuries de main-d'œuvre qui touchent aussi d'autres secteurs. Le Premier ministre qui se concentre sur l'aide aux chômeurs de longue durée. Les détails dans un instant. Éric Dupond-Moretti veut durcir le rappel à la loi. Le garde des Sceaux juge le système actuel pas assez dissuasif. Il veut le remplacer par un avertissement pénal probatoire. Explication à suivre. Une grève de 24 heures très suivie à SOS Médecins. Les praticiens à domicile demandent une revalorisation de leurs honoraires de moins en moins attractifs. Près d'un jeune de moins de 24 ans sur 3 a eu des pensées suicidaires, conséquence terrifiante de la crise du Covid. Le gouvernement va justement lancer une nouvelle ligne d'écoute téléphonique pour la prévention du suicide. J-1 avant PSG Manchester City demain soir en Ligue des Champions et des bonnes nouvelles pour Lionel Messi. Vous entendrez Cyril de la Morinerie. La météo pour demain, on peut s'attendre à une journée calme, nous dira Marlène Duret. Après ce journal, l'invité écho, ce sera à 22h20. Christian Vernet, PDG de la compagnie. On verra si les réservations de billets d'avion redécollent avec la réouverture prochaine des vols vers les États-Unis. Et puis on verra ensemble les unes de la presse pour demain matin.
Europe 1.
D'abord, ce nouveau coup dur donc pour le budget de 3 millions de ménages. Le prix du gaz connaît une nouvelle envolée, plus 12,6% le 1er octobre. En cumulant les hausses successives depuis le début de l'année, les prix du gaz ont augmenté de 57%. Aurélien Fleureau, comment l'expliquer ?
Alors, toujours par le fait que les prix du gaz connaissent des hausses historiques au niveau mondial et que la France importe 99% de sa consommation de gaz naturel. Donc, comme tous les pays européens, nous sommes directement impactés par les variations des prix du marché. Une explosion qui s'explique à la fois par des stocks bas, par une forte demande de gaz naturel liquéfié en Asie et puis par une incapacité de la Russie et de la Norvège à augmenter leurs livraisons. Cette hausse qui vient d'être annoncée, c'est la plus importante depuis 2013. Elle concerne les tarifs réglementés, soit 3 millions de consommateurs, en très grande majorité des clients d'Engie. Et si cette augmentation est loin d'être la première, ce ne sera pas non plus la dernière, puisque la Commission de régulation de l'énergie anticipe un maintien de ses tarifs élevés jusqu'au printemps prochain, puis une période de baisse et enfin un retour à la normale, mais pas avant 2023.
Aurélien Fleureau. La mesure se veut un coup de pouce pour les employés de l'hôtellerie-restauration, mais aussi pour les employeurs de ce secteur qui peine à recruter. Au restaurant comme à l'hôtel, les pourboires par carte bancaire seront bientôt défiscalisés. C'est une annonce d'Emmanuel Macron qui se trouvait aujourd'hui à Lyon, au salon de l'hôtellerie et de la restauration. Le chef de l'État souhaite une mise en application le plus tôt possible. Défiscaliser les pourboires par carte pourrait offrir un complément de salaire aux salariés du secteur. Jean-Luc Boujon.
Oui, c'est tout simplement un moyen de rendre les professions de la restauration plus attractives, hein, car depuis la réouverture des établissements, les patrons sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre et à de nombreux refus des personnels de revenir en salle ou en cuisine à cause de la dureté des horaires et de la faiblesse des rémunérations. Du coup, rendre le pourboire par carte bleue possible et surtout exonérer de charges pour le patron et défiscaliser pour le salarié, c'est une très bonne idée pour Romain Vidal, chef à Paris, et Christian Tête-d'Oie, chef à Lyon.
Moi, pour être très concret, sur 75 personnes au restaurant Tête-d'Oie, il m'en manque 22. Cette crise nous a énormément impactés et donc nous avons besoin de revaloriser les salaires de nos collaborateurs et donc ça va participer justement à cela.
Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que ça va augmenter automatiquement le pouvoir d'achat parce que malheureusement, ça limitait les pourboires, se diminuer de plus en plus parce qu'ils n'avaient que des cartes bleues, les gens ont payé via des applications.
Voilà, alors la mesure sera effective très vite, sans doute dans les mois qui viennent.
Et pendant son bain de foule dans les allées du salon, Jean-Luc, un œuf a été lancé sur Emmanuel Macron.
Oui, au milieu des nombreux restaurateurs venus le remercier pour les aides accordées durant la crise sanitaire, un œuf lancé par un jeune homme de 20 ans en Bermuda au milieu de cette foule et un président qui ne se rend pas tout de suite compte de ce qui se passe. Écoutez.
C'est arrivé derrière.
Oui, mais c'est toujours comme ça que ça arrive.
C'était une prune ou un...
C'est un bout de papier.
Je ne sais pas d'où ça vient.
C'est un petit jeu.
S'il a un truc à me dire, qu'il vient de me le dire.
On
qui viennent me voir.
Je crois que les services ont remarqué. Il
est parti. J'irai le voir après.
Alors apparemment, le chef de l'État ne l'a pas vu. Le jeune homme a été immobilisé, puis placé en garde à vue pour violence aggravée sur personne dépositaire de l'autorité publique à la Sûreté de Lyon. Ce que l'on sait ce soir, c'est qu'il est inconnu des services de police et devrait subir une expertise psychiatrique.
Merci Jean-Luc Bougeon à Lyon pour Europe 1. Le secteur de l'hôtellerie-restauration n'est pas le seul qui peine à recruter. Jean Castex présentait justement ce matin un plan contre les pénuries de main-d'œuvre avec une attention particulière pour les chômeurs de longue durée. Ils représentent désormais plus d'un inscrit sur deux à Pôle emploi. C'est donc vers eux que le Premier ministre veut concentrer les efforts. Les entreprises qui proposeront un contrat de professionnalisation à un chômeur de longue durée toucheront une aide de 8000 euros, Olivier Samin.
Oui, cette aide de 8000 euros, elle existe déjà pour l'embauche d'un jeune de plus de 18 ans en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. C'est l'une des mesures phares du plan Un jeune, une solution mis en œuvre par le gouvernement l'an dernier au sortir du premier confinement. Les adultes, eux, ne donnaient pas droit au versement de cette aide. C'est ça qui va changer. À partir du 1er janvier prochain et tout au long de l'année 2022, les entreprises qui recruteront en contrat de professionnalisation un adulte au chômage de longue durée percevront elles aussi cette aide de 8 000 euros. Le gouvernement espère ainsi porter de 30 000 à 40 000 le nombre de chômeurs de longue durée en contrat de professionnalisation. 240 millions d'euros vont être dégagés pour financer la mesure. Aujourd'hui, un chômeur sur deux inscrit à Pôle emploi est un chômeur de longue durée, autrement dit, à la recherche d'un emploi depuis au moins un an. Le nombre de personnes dans cette situation a augmenté de 10% depuis le déclenchement de la crise sanitaire et il stagne ces derniers mois alors que le nombre de chômeurs tout court recule. C'est donc sur cette population que le gouvernement veut faire porter l'effort.
Merci Olivier. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a de nouveau reculé en août, moins 1,4% par rapport à juillet, avec un peu plus de 3,5 millions d'inscrits. Marine Le Pen cherche à reprendre la main sur sa partie de l'échiquier politique. Concurrencée par Éric Zemmour dans les sondages, la candidate RN à la présidentielle souhaite inscrire son principe de la préférence nationale dans la Constitution. Si elle était élue, elle soumettrait cette question par référendum. Ce soir, Marine Le Pen a livré quelques détails sur son projet.
Ce référendum, il porte sur un projet de loi. Un projet de loi complet qui vise à réguler drastiquement l'immigration, à rétablir des critères stricts pour l'entrée et le maintien sur le territoire, mais aussi pour l'acquisition de la nationalité française, qui mettent en œuvre la priorité nationale, c'est-à-dire la priorité pour les Français, notamment à l'accès au logement social, mais aussi à l'emploi. Donc, dans ce référendum, il y a une partie qui est une partie constitutionnelle, où j'intégrerai précisément la priorité nationale et où je considère aussi que les étrangers auront évidemment tous les droits et libertés qui ne sont pas précisément réservés aux Français.
Marine Le Pen, ce soir sur France 2. Des menaces de mort contre Éric Zemmour. Le polémiste a été menacé et insulté en pleine rue par un passant en début d'après-midi à Paris sur le boulevard de Clichy. Son officier de sécurité l'a exfiltré en voiture. Éric Zemmour bénéficie d'une protection policière. En Allemagne, qui va succéder à Angela Merkel à la chancellerie? Les sociaux-démocrates du SPD ont gagné les législatives allemandes d'une courte tête, avec en deuxième position le parti conservateur d'Angela Merkel, la CDU, qui est tombé à son plus bas historique. Les scores sont serrés, les différents partis vont donc devoir négocier la formation d'un gouvernement. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin pour Europe 1. En tout cas, la voie semble se dégager, Hélène, pour le social-démocrate Olaf Scholz.
Il y a en réalité beaucoup moins d'incertitudes et de confusion qu'on ne le pense, pour trois raisons. D'abord, Olaf Scholz a gagné le vote populaire, son parti, le SPD, a remporté plus de voix que la CDU-CSU. Ensuite, la dynamique joue en sa faveur, il progresse partout, alors que les conservateurs ont été sanctionnés. Enfin, il a d'ores et déjà des partenaires qui expriment clairement leur envie de gouverner avec lui, les Verts et les Libéraux, auxquels il a lancé un appel ce matin et qui l'ont saisi. Ils ont même déjà commencé à discuter entre eux pour déblayer le terrain, c'est prometteur. Et puis ils savent que la moitié des Allemands souhaitent que cette coalition voie le jour. C'est très différent de la dernière fois, quand tout avait duré jusqu'au mois de mars. À l'époque, en fait, personne n'avait envie de se retrouver en coalition avec Angela Merkel, il faut s'en souvenir. La grande coalition avait été une alliance contrainte par l'impasse politique. Alors un écueil tout de même, cette fois-ci, l'obstination d'Armin Laschet, le candidat de la CDU, qui persiste à penser qu'il est en capacité de négocier en parallèle pour former un gouvernement. Sur le papier, c'est vrai, il peut le faire, Mais dans son propre camp, on lui demande maintenant de revenir à la raison et d'accepter que la CDU aille dans l'opposition.
Merci Hélène Kohl. Carlos Puigdemont de retour à Bruxelles dans l'attente de son rendez-vous judiciaire. Recherché depuis 4 ans par la justice espagnole, le leader indépendantiste catalan avait été arrêté la semaine dernière en Italie. Il devra y retourner lundi prochain pour une audience sur son extradition réclamée par l'Espagne.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Éric Dupond-Moretti veut remplacer le rappel à la loi par un avertissement pénal probatoire. Le garde des Sceaux estime que le système actuel apporte une réponse pénale trop faible et qu'il provoque un sentiment d'impunité. Le rappel à la loi n'impressionnait que les honnêtes gens, explique Éric Dupond-Moretti. Il va donc être remplacé par un avertissement pénal probatoire. Gladys Laffitte, qu'est-ce que ça change ?
Tout d'abord, ce qui change, c'est que lorsque cet avertissement pénal probatoire sera prononcé, une période d'un an va s'ouvrir pendant laquelle, si une autre infraction est commise, la personne sera poursuivie pour les deux infractions. C'est une sorte de sursis, de mise à l'épreuve. Concrètement, cela veut dire que le dossier sera toujours en cours aux yeux du procureur et non classé, comme c'est le cas aujourd'hui lorsqu'un rappel à la loi est prononcé. Actuellement, le procureur peut toujours rouvrir la procédure pendant 6 ans en cas de nouveaux faits. Il y aura maintenant une obligation de poursuite. C'est une mesure qui ne sera possible que si la personne reconnaît sa culpabilité et si elle n'a jamais été condamnée, et en sont exclus les délits ou violences contre les forces de l'ordre ou les élus. Autre changement, les policiers ne prononceront plus ces avertissements, comme c'est le cas, à hauteur de presque 70% selon les chiffres de 2019, mais uniquement les procureurs ou les délégués du procureur. C'est donc un transfert de charges qui sera financé par l'augmentation du budget de la justice. Voilà, tout cela va demander un petit peu de temps de mise en place, puisque cette nouvelle mesure n'entrera en vigueur qu'en janvier 2023, le temps aussi d'arrêter petit à petit les rappels à la loi.
Gladys Laffitte, SOS Médecins est en grève depuis ce matin, grève très suivie pour une durée de 24 heures. Les associations SOS Médecins demandent une revalorisation des honoraires pour les 1300 médecins qui vivent de ces consultations à domicile. Ils citent en exemple l'indemnité de déplacement de jour de 10 euros et qui n'a pas augmenté depuis 15 ans, Frédéric Michel.
Et la colère monte, hein, 15 ans sans aucune revalorisation et surtout aucune perspective, c'est tout simplement inacceptable pour ces médecins qui ont fait le choix de l'urgence à domicile de jour comme de nuit, d'autant que ces interventions sont en général plus longues qu'une consultation classique, plus techniques également. Au cabinet, ils reçoivent en moyenne 4 à 5 personnes en une heure. À domicile, c'est 2 consultations maximum. Le docteur Raphaël Gable préside l'association SOS Médecins à Fréjus-Saint-Raphaël.
À moyen long terme, c'est une pratique qui va mourir si rien n'est fait, puisqu'on n'arrive plus à trouver tout simplement des médecins qui veulent faire des visites à domicile. Les médecins traitants, la plupart du temps, diminuent ou arrêtent leurs actes de visite puisqu'ils sont débordés en consultation. Il y a tout un tas de personnes, je pense aux personnes âgées isolées, ou même aux mères de famille isolées, ou des personnes handicapées, qui n'ont pas d'autre choix pour voir un médecin, de nous voir nous, ou alors se déplacer en ambulance. Enfin, c'est quand même un paradoxe. Il faut revaloriser, je pense, à hauteur de 57,60 €. Comme ça a été le cas pendant la crise sanitaire. 35 €, quand on enlève les charges, il ne reste plus beaucoup.
La conséquence, c'est une crise des vocations. Un exemple ici à Fréjus-Saint-Raphaël, sur 10 praticiens de l'association SOS Médecins, 4 vont changer d'activité à la fin de l'année et il n'y a qu'une seule recrue pour l'instant.
Et Frédéric Michel dans le Var pour Europe 1. Les poubelles commencent à déborder. À Marseille, les éboueurs en grève refusent de passer aux 35 heures, ce qui représenterait pour eux une nette augmentation du temps de travail. Les syndicats attirent l'attention sur la pénibilité du travail des éboueurs. C'est l'un des effets les plus préoccupants de la crise sanitaire dont nous peinons toujours d'ailleurs à sortir. Les jeunes sont particulièrement frappés par la dépression. C'est une information Europe 1. 30% des moins de 24 ans ont déjà eu des idées suicidaires au cours de ces derniers mois. Le docteur Florian Ferreri est psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et il n'est pas totalement surpris par ce chiffre.
Ça m'étonne oui et non, et ça, en tout cas ça me préoccupe. C'est-à-dire que effectivement, à cet âge-là, l'environnement joue beaucoup. L'environnement passé, c'est-à-dire le milieu dans lequel on a grandi, mais l'environnement actuel. Et l'environnement actuel, il s'est quand même massivement dégradé. L'isolement, le sentiment d'impuissance, le sentiment que ça n'en finirait pas. Et puis, alors qu'on a des signaux plutôt positifs, on n'arrive pas à apprécier ces signaux comme positifs parce qu'il y a un effet cumulatif de tous ces facteurs de préoccupation. Des signaux positifs, un élan, on va dire, une solidarité et des nouvelles d'optimisme supplémentaire peuvent rapidement modifier la donne. Mais ce ne sera pas que du discours, il faut que ça s'accompagne par des faits. On peut projeter positivement certaines choses, mais il faut que les choses se décantent positivement, que ce soit scolairement, professionnellement. C'est-à-dire que si c'est juste dans la pensée, ça ne suffira pas.
Le docteur Florian Ferreri avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Une partie de la jeunesse traversée par des pensées suicidaires et une première réponse du gouvernement face à cette situation. Le numéro national de prévention du suicide sera lancé à la fin de la semaine. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a confirmé ce matin à l'ouverture des assises de la santé mentale. Dans quelques jours, Élise Dangean, les personnes en détresse pourront donc compter jour et nuit sur cette nouvelle ligne d'écoute.
Oui, c'était une promesse de l'exécutif l'an dernier dans le cadre du Ségur de la santé. Elle verra le jour ce vendredi. Alors concrètement, il s'agit d'un tout nouveau numéro de prévention, gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 depuis tout le territoire national. Au bout du fil, des professionnels de santé formés, mobilisés, en lien avec des acteurs du soin de chaque territoire, dit Olivier Véran, pour apporter des réponses adaptées à toutes les situations. Ce nouveau numéro vert complétera le système Vigilance, créé en 2015, un dispositif de rappel et de suivi des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Il sera déployé dans tout le pays d'ici à la fin de l'année. L'an dernier, il a bénéficié à près de 15 000 personnes.
Élise Dangean, Facebook interrompt le développement d'un nouvel Instagram destiné aux moins de 13 ans. Ce projet, baptisé Instagram Kids, est sous le feu des critiques, en particulier aux États-Unis, au nom de la protection de la santé mentale des enfants. Le PSG se prépare à affronter Manchester City demain soir en Ligue des Champions. L'heure de la revanche a sonné quelques mois après que le PSG a été sorti en demi-finale de la Ligue par Manchester City. Vous avez suivi aujourd'hui l'entraînement des Parisiens et la conférence de presse d'avant-match, Cyril de la Morinerie, et vous avez des bonnes nouvelles concernant Lionel Messi.
Écoutez, j'ai pu observer Lionel Messi et ses coéquipiers pendant une quinzaine de minutes ce matin au camp des loges. L'Argentin est arrivé le premier sur la pelouse. Il s'est tout de suite échauffé avec le reste du groupe. Il a pris part aux exercices avec ballon. On l'a vu souriant, détendu, appliqué. Le sextuple ballon d'or qui avait été touché au genou contre Lyon il y a 10 jours a l'air en forme. D'ailleurs, il figure bien dans le groupe pour demain. Depuis son arrivée, Lionel Messi a joué à 190 minutes avec le maillot parisien. Il n'a pas encore marqué ni ébloui les spectateurs, mais ça va venir. Il faut être patient, demande l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino.
C'est un homme comme tout le monde. Il a aussi besoin de s'adapter à cette nouvelle équipe, cette nouvelle culture et ce nouveau pays. Il a fait 20 ans à Barcelone, il s'y sentait comme chez lui. Tout est nouveau ici, ça ne fait pas très longtemps qu'il est arrivé. Avec du temps, je n'ai pas de doute sur le fait que tout va bien se passer et qu'on va rencontrer un vrai succès tous ensemble.
Quant à Marco Verratti, il semble guéri de sa blessure au genou. L'Italien figure dans le groupe prévu demain. Dernière information révélée par l'entraîneur du PSG, Mbappé et Neymar se sont parlé après le match Paris-Montpellier. Le Français s'était plaint de ne pas recevoir assez de ballons de la part de son coéquipier brésilien.
Merci Cyril de la Morinerie, PSG Manchester City, demain soir 21h, match à suivre évidemment en intégralité sur Europe 1. Voyons maintenant le temps pour ce mardi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur? Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Le temps sera donc calme demain, Marlène Duret, mais avant l'arrivée de la pluie par la Manche.
Oui, voilà, une météo plutôt sereine avec des éclaircies, parfois belles, ou du soleil voilé, en tout cas pour une grande partie du pays, et une fois la grisaille du matin résorbée. Un ciel un petit peu plus chargé des Alpes au Jura. Et puis après une belle matinée, là, du Nord-Pas-de-Calais à la Haute-Normandie et au Pays de la Loire, on va voir défiler les nuages. Effectivement, une perturbation va se rapprocher avec d'abord des averses passagères et puis la pluie qui va se renforcer enfin de journée sur la pointe bretonne et le Cotentin. Les températures seront en baisse au petit jour comme en journée. Les maximales seront comprises entre 18 degrés à Clermont-Ferrand et 28 en Corse, avec probablement des pointes à 29-30 dans le Var localement. Il fera par exemple 19 à Amiens, Coutances et Thonon-les-Bains, 20 degrés à Paris, à Tours, Lyon, Dijon et Limoges, 21 à Montélimar, 23 à Pau ou encore 27 degrés à Carcassonne.
Merci Marlène. À suivre sur Europe 1 Top Wall Street avec Claire Lemaître. L'invité égo à 22h20 sera Christian Vernet, PDG de la compagnie. À tout de suite.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Top à Wall Street sur Europe 1. Bonsoir Claire Lemaître.
Bonsoir Alexandre.
Le début de semaine est hésitant à Wall Street et les indices sont terminés dans le désordre.
Avec une petite hausse de 0,21% pour le Dow Jones, il termine à 34 869 points. Mais c'est plus difficile pour le Nasdaq qui perd 0,52%. Un marché à deux vitesses donc. Avec d'un côté un pétrole en très grande forme, le baril de WTI est de retour à ses plus hauts niveaux depuis l'automne 2018 grâce à la perspective d'une demande solide et à des stocks en baisse. Les géants de l'industrie en profitent. Chevron gagne 2,4%, plus 3% pour ExxonMobil. En revanche, les technos sont à la traîne. Apple perd 1%, Amazon -0,6%, Microsoft -1,7% et Facebook résiste un petit peu mieux, en hausse de 0,2% ce soir.
À Paris, le CAC 40 démarre la semaine sur une hausse timide, portée lui aussi par la progression des prix du pétrole.
Une toute petite hausse, 0,19%, 6 650 points. Le CAC 40 plutôt rassuré par les résultats des élections législatives en Allemagne, mais c'est surtout le pétrole qui soutient le CAC. Comme à New York. Le brut fait monter le secteur pétrolier. Total Energy bondit de 3,4%, plus 6,5% pour Technip FMC. Et puis, les valeurs liées au voyage profitent toujours du prochain assouplissement des restrictions anti-Covid au Royaume-Uni et aux États-Unis. Air France KLM et le groupe hôtelier Accor gagnent plus de 5%, plus 6,2% pour ADP, Aéroport de Paris.
Ouais, une séance plus compliquée, en revanche, pour l'équipementier automobile. Plastic Omnium
qui a perdu 3,5%. Le groupe revoit en baisse ses prévisions de résultats pour 2021. Et c'est à cause de la crise des semi-conducteurs qui se traduit désormais par une forte révision de la production automobile mondiale. Ailleurs, en Europe, la semaine démarre bien. Londres gagne 0,2%, plus 0,3% pour Francfort après les législatives donc en Allemagne. Plus 0,6% pour Milan. Madrid plus 1,5%. Bruxelles plus 0,9%. Et à Paris, le CAC 40 gagne 0,2%, 6 650 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Voyons maintenant si les réservations de billets d'avion affluent avec la réouverture annoncée des vols vers les États-Unis. L'invité éco ce soir, Christian Vernet, PDG de la compagnie, il répond à Emmanuel Dutheil. Bonsoir Christian Vernet.
Bonsoir Monsieur Dutheil.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le PDG de la compagnie. Alors pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes la seule compagnie 100% business, 100% voyage d'affaires notamment sur des lignes aussi importantes que le Paris-New York ou le Nice-New York. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est parce que ça y est, on va enfin pouvoir revoler du côté des États-Unis si on est double vacciné. Mais on va pouvoir le faire à compter du 1er novembre. Ma première question est toute simple, on l'a appris il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a des réservations ?
Alors absolument. Vous imaginez bien qu'après 15 mois d'une très longue attente d'interdiction de vol au travers Atlantique, qui ont permis aux frontières européennes de s'ouvrir pour la clientèle américaine, nous attendions à l'évidence la réciproque sur la partie américaine pour que les passagers européens, français en particulier, puissent à nouveau emprunter les airs et notre compagnie pour aller aux États-Unis. Il est clair que l'effet d'annonce a été immédiat. Et même si nous vendions au préalable un certain volume d'affaires sur la partie purement clientèle américaine, qui a voyagé dès le 12 juin, la date à laquelle nous avons rouvert la destination transatlantique, il est clair que les ventes françaises ont explosé. Alors, avec mesure, mais on a globalement, pour vous donner un chiffre, plus que doublé les chiffres quotidiens de vente à partir depuis lundi dernier, le 20 septembre.
On parle beaucoup de l'avenir du tourisme d'affaires. Vous vivez bien évidemment en grande partie avec ce tourisme d'affaires du côté de la compagnie. Comment vous prévoyez la suite, Christian Vernet ?
Bon, le marché est forcément compliqué actuellement. Ce qu'il est notable de constater, c'est que, à l'évidence, l'organisation des communications au travers des vidéoconférences a gagné du terrain et a privé une partie, en tout cas a trouvé une solution aux entreprises, mais va probablement priver une partie de la clientèle affaires qui voyageait avant.
Vous l'estimez à combien ? Puisque le patron d'Air France dit que, et le patron de la SNCF disent que peut-être 10 à 15%, 20% de leur business affaires va sûrement disparaître dans les années à venir. C'est à peu près ce que vous imaginez aussi du côté de la compagnie ?
C'est probable. Il est difficile d'avoir un modèle précis sur ce sujet-là. Ce qui est certain, M. Dutheil, c'est que notre clientèle aujourd'hui, des patrons d'entreprises qui utilisaient la compagnie dans le passé, nous ont marqué leur intérêt profond à l'annonce de la réouverture des frontières américaines de recommencer à voler. Parce que les vidéoconférences répondent bien évidemment à ce nombre de problématiques pour les entreprises, mais ne sont absolument pas suffisantes pour aller au bout de leur projet économique, contractuel en particulier.
Mais repartir et recommencer à voler, ça c'est certain, mais vont-ils voler aussi souvent qu'avant ? C'est ça la grande question.
Probablement pas avant un certain temps. Si vous intéressez au temps qu'il va falloir avant que le trafic business se rétablisse au niveau pré-Covid, je pense, mais c'est mon éclairage, mais ce n'est qu'un éclairage, qu'il faudra attendre fin 2023 avant qu'on revienne à des niveaux de trafic semblables. Ça c'est certain. Donc, en rapport avec ce constat prévisible, ce qu'il faut, qu'il a fallu, c'est s'adapter. Bon, alors, notre méthode d'adaptation, c'est celle de réduire l'offre de services sur Paris-New York, puisque c'est notre axe principal. Alors que nous étions en deux vols quotidiens au moment en 2019, nous allons probablement, alors montant en cadence aujourd'hui, nous sommes à 4 ou 5 vols par semaine, monter à 7 vols, donc un vol quotidien durant l'hiver 2021. Mais il faudra un certain temps avant que nous complétions cette offre en mettant un deuxième appareil sur l'axe Paris-New York. Donc notre réponse, c'est la limitation de capacité pour s'adapter à la moindre demande à laquelle nous allons être confrontés.
Et pour éviter de devoir casser les prix, hein, parce que si vous deviez remplir, vous seriez bien obligé de casser les prix. Justement, revenons un tout petit peu en arrière. Vous êtes une petite compagnie, hein, la compagnie, la seule sur ce marché totalement business. Comment vous avez vécu ces mois où vous étiez cloué au sol, où il n'y avait rien et par moments, on avait même zéro perspective?
Évidemment, c'est compliqué. C'est très compliqué dans une entreprise qui se voit du jour au lendemain pratiquement interdite de vol pour des questions administratives. Ce qu'il a fallu, en tout premier lieu, c'est protéger la trésorerie de l'entreprise. Donc, l'adaptation a voulu que nous prenions toutes les mesures nécessaires à cette protection-là. Alors, évidemment, l'État, fort heureusement, a mis en place un certain nombre de dispositifs comme l'activité partielle, les PGE. Et puis, nous avons négocié avec un nombre d'acteurs principaux, nos loueurs d'avions, mais aussi nos salariés, des accords spécifiques de manière à reporter des charges, voire à diminuer nos charges fixes pendant la période. Le deuxième, c'est effectivement celui de maintenir une cohésion d'entreprise. Et puis, nous sommes une compagnie aérienne, avec un nombre de requis opérationnels vis-à-vis des équipages qui sont très importants. Alors, nous sommes rapidement, dès l'été 2020, reporté sur le marché charter. Nous avions une activité charter long courrier préalablement jusqu'en 2019. Et nous avons donc fortement investi ce marché-là puisqu'il a bien fallu trouver des solutions de transport, d'organisations sportives en particulier, mais pas que, qui ne trouvaient plus solution dans l'arrêt des services aériens long courrier.
Dans votre malheur, ça vous a permis d'accélérer sur cette activité annexe?
Absolument. Non seulement nous avons accéléré, nous avons en fait dépassé le cadre classique de nos vols charter. Nous avons été sur les 5 continents jusqu'en Australie. Nous nous sommes fait un nom. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui très très fortement sollicités pour l'activité charter. Et d'ailleurs, cet hiver, en attendant la reprise intégrale du trafic régulier sur nos destinations favorites, nous avons un carnet de commandes en vol charter qui est très très important. Et ça montre le savoir-faire d'entreprise sur des opérations de cette nature. Et ça montre aussi.
Vous diriez qu'aujourd'hui l'entreprise est sauvée et que l'entreprise est pérenne et qu'elle redémarrera normalement et qu'elle peut tenir?
Alors, j'attends de voir quand les Américains vont rouvrir les frontières. J'attends évidemment de voir comment le marché va réagir à cette ouverture. Le doublement des ventes auquel nous sommes aujourd'hui, le constat que nous faisons depuis la semaine dernière, est un signe très favorable. Je veux espérer qu'effectivement, que l'hiver, qui est une période compliquée pour le transport aérien en général et le long courrier en particulier, sera propice en fait effectivement à la reprise progressive d'activité. Le complément d'activité de charter est une aide évidemment au maintien d'activité et à l'entrée de cash dans l'entreprise. Je pense que nous sommes effectivement sortis d'affaires, mais je suis quelqu'un extrêmement prudent et j'attends de voir les semaines et les mois à venir pour prendre éventuellement d'autres décisions complémentaires pour préserver l'entreprise, ses salariés, de manière à ce que effectivement, l'entreprise puisse ressortir de la crise plus forte qu'elle n'était au préalable. Donc, l'ensemble de ces facteurs me laisse raisonnablement penser qu'effectivement, sauf s'il y avait des complications en matière de pandémie auxquelles aujourd'hui on ne s'attend pas.
Mais vous êtes confiant et c'est ça qu'on entend pour la suite.
Absolument.
Un grand merci, Christian Vernet. Je rappelle que vous êtes le PDG de la compagnie. Merci d'avoir été ce soir sur Europe 1. Et nous, on se dit à après-demain, puisque demain soir, soyez bien au rendez-vous. Grande soirée football sur Europe 1 à l'occasion du match PSG-Manchester City. Mercredi 22h20.
Effectivement, Emmanuel, soirée à ne pas manquer demain soir pour PSG Manchester City. Emmanuel Dutheil, on vous retrouve demain à 13h avec Elisabeth Assayac dans La France Bouge. Vous recevrez Brigitte Bourguignon, ministre chargée de l'autonomie. Ensemble, vous reviendrez sur le plan dépendance qui vient d'être annoncé et qui doit revaloriser les métiers de l'autonomie.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Avec ce rapide coup d'œil pour finir sur les unes de la presse demain matin, Macron cherche à retrouver l'élan de 2017, remarque Le Figaro. Face à l'émergence de personnalités clivantes comme Sandrine Rousseau ou Éric Zemmour, le président veut donner son propre souffle à la campagne. On vous parle sur Europe 1 de la pénurie de main-d'œuvre qui touche de nombreux secteurs comme la restauration. Eh bien, Ouest-France se penche sur ces 50 000 postes qui sont à pourvoir dans le transport routier. Voilà un autre secteur qui recrute lutte avec la relance économique. Libération consacre demain une large place à l'IVG et ses Françaises obligées d'avorter à l'étranger à l'occasion de la journée mondiale du droit à l'avortement. Libé a suivi des femmes venues interrompre leur grossesse aux Pays-Bas alors que chaque année 2000 à 5000 d'entre elles doivent sortir du pays. Enfin, les échos tirent les leçons du scrutin en Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz, arrivé en tête dimanche, espère diriger le prochain gouvernement. Cette question dans les échos pour comprendre les négociations en cours. 22h31, vous êtes sur Europe 1. Voici revenir Olivier Delacroix pour la Libre Antenne. Bonsoir Olivier.
Exactement, bonsoir. Comment allez-vous Alexandre?
Pour attaquer la semaine, ça va très bien.
Et comme tous les lundis, j'ai envie de vous dire. Et vous, ça va?
Ça va très bien.
Bon,
ça va très
bien. Eh ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure à 23h pour le flash.
À
et puis c'est parti.
À tout à l'heure,
bonne semaine, à tout à l'heure.